La Grave Autrement, une émission de Radio Zinzine. La Grave, c'est un sanctuaire pour l'alpinisme dans le massif des Écrins. La Grave, c'est un village qui se situe au pied des célèbres et imposants glaciers de la Meije, 3923 mètres, et du Râteau, 3800 mètres. La Grave, c'est ce village qui a une population très très diversifiée, entre artisans, paysans, chercheurs en sciences humaines, entrepreneurs et bien sûr tous les métiers de la montagne et du tourisme. La Grave, c'est un village qui est administrativement et géographiquement enclavé entre d'un côté l'Isère et de l'autre les Hautes-Alpes. Ni chez l'un ni chez l'autre, mais bien chez lui, car le village de La Grave, de par sa singularité géographique et les aléas de son histoire, a connu un développement bien différent de ses voisins, les grandes stations de ski, de la vallée de Serre-Chevalier ou encore des Deux Alpes et de l'Alpe d'Huez. C'est cette singularité que le collectif La Grave Autrement souhaite préserver. Car La Grave est aujourd'hui dans le radar d'un grand projet de développement à la vision classique, arriérée et déconnectée de toute pertinence économique et géographique. Un projet hors sol et hors du temps. Bref, un grand projet inutile. Face au glacier de la Meije et du Râteau, abhorrant les cimes minérales de ce grand massif montagnard, entre les forêts de mélèzes et les pâturages, nous avons rencontré 5 membres de ce collectif. Thierry, Nastasia, Aurélien, Nils et Marion. Ils nous ont raconté leur village et son histoire, ce grand projet inutile et les raisons de leur opposition, mais aussi leur idée, leur envie et leur rêve pour le futur de ce village singulier. Nous nous retrouvons chez Aurélien, sur la terrasse d'une ancienne ruine de pierre réaménagée, entouré de vaches qui pâturent et juste en face du massif de la Meije, dans le village de La Grave. Il nous offre un café et nous décrit ce qui se présente sous nos yeux.
Alors on est dans un petit hameau là, qui s'appelle le Pigolèvre, un des hameaux du pays de la Meije. On est juste en face des glaciers, du pic de la Meije. On a une petite vue sur les villages, un petit peu sur la vallée au loin, voilà. Il y a une petite vue sur le Combeno aussi, du col du Lautaré. D'ici, on peut voir le glacier du Tabuchet, le glacier de la Meije et le glacier du Râteau, qui sont tous les trois assez gros aussi. Mais le glacier de la Girouge, justement celui qu'on ne voit pas, reste quand même le plus gros. Donc c'est peut-être un peu pour ça aussi que pas mal de gens l'oublient, parce qu'on ne le voit pas directement d'ici, depuis les hameaux.
Et c'est quoi sa particularité ?
Sa particularité, c'est donc la plus grande calotte glaciaire d'Europe. C'est aussi le point aujourd'hui le plus accessible pour la découverte de la montagne et de l'alpinisme. Parce qu'aujourd'hui, avec le téléphérique de la Grave-la-Meije, on arrive à 3200 mètres et on a juste 50-100 mètres à marcher. On est directement sur le glacier et on peut vivre tout de suite cette expérience de la haute montagne. Alors qu'à certains endroits qui sont aussi avec des téléphériques, il faut déjà beaucoup plus de connaissances pour accéder au glacier. On peut penser à l'Aiguille du Midi par exemple, où il faut déjà une réelle connaissance de la montagne pour pouvoir mettre un pied sur la glace. Alors qu'ici, la particularité justement, c'est d'avoir un accès vraiment très facile et qui est déjà là, qui est déjà tout fait, et à la découverte de la haute montagne et de l'alpinisme. Aujourd'hui, on voit bien quand on prend la route et qu'on vient, par exemple, du sud des Hautes-Alpes, qu'on passe par Briançon, Serre-Chevalier et qu'on arrive à La Grave, on voit bien que c'est un petit peu différent quand même et que ça a été particulièrement préservé. Et en fait, tout ça, c'est un petit peu dû à l'histoire du col du Lautaré, à l'histoire des Hautes-Alpes. On est un petit peu le village du fin fond des Hautes-Alpes dont personne s'est occupé pendant 40 ans, 50 ans. Et grâce à ça, on a eu un développement beaucoup plus raisonné. Et aujourd'hui, justement, on peut vraiment dire que la Grave, il y a quelque chose de différent. Autant sur les remontées mécaniques et avec le hors-piste en hiver, qui est réputé dans le monde entier parce que c'est un des seuls domaines comme ça au monde. Il faut bien le dire, où il n'y a pas de piste, où il n'y a pas de règles absolues et il y a une liberté qu'on n'a pas ailleurs, tout simplement. Et donc tout ça, et en été, cette liberté, elle s'exprime aussi par un certain calme par rapport à d'autres vallées qui sont quand même très très exploitées, même en été. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire pouvoir aller encore à des lacs et prendre du plaisir parce qu'il n'y a pas trop de monde. Donc pourquoi tout ça en fait? C'est parce que, encore une fois, on a été un petit peu le petit village oublié au fin fond des Hautes-Alpes. Et grâce à ça, en fait, aujourd'hui, justement, l'Agrave est différent. Et on pense que l'Agrave devrait rester différent. Et plutôt que justement s'engager dans des projets qui peuvent mettre en péril cet équilibre et cette différence. Qui plaît justement aux gens qui viennent ici, aux touristes et à la clientèle qui vient ici depuis des années. Alors encore une fois, bien sûr, le collectif n'est pas du tout contre le tourisme. On est complètement conscient que le tourisme fait part à une grande part dans notre vie aujourd'hui. Et grâce au tourisme, on peut avoir des offres d'emploi qui sont un peu diverses et on peut rester vivre ici. Après, on pense que le tout tourisme n'est pas la seule solution. Il faut qu'on commence à penser à d'autres solutions. Il faut qu'on commence à réfléchir, à essayer d'avoir des propositions un peu alternatives qui justement continueront à plaire au tourisme et qui viendront pour ça, pour chercher justement cette petite différence qu'ils ne trouveront pas ailleurs.
Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, il n'y a pas un, mais en fait, il y a deux domaines de ski. On a tendance à les oublier. Hein, mais le premier domaine de ski, il est là-bas, en fait, c'est le Chazelet. On aperçoit le sommet des remontées mécaniques. Alors, il y a très peu de remontées. Hein. Il y a un télésiège et trois téléskis. En fait, ça a été édifié en 1964. Donc, c'est le tout premier domaine de ski. Et le téléphérique, il vient bien plus tard, puisqu'il vient à partir de 1976, premier tronçon, et 1978, le deuxième. Donc, c'est bien plus tard. Et en plus, le téléphérique, donc en face nord, il a été construit pour l'été. C'est-à-dire qu'au départ, on avait construit ça pour monter les gens là-haut. Alors, ce n'est pas le premier projet de téléphérique. Hein. Il y a eu des projets de téléphérique à l'Agrave dès les années 30. Dans les années 30, il y avait un projet de téléphérique qui avait été monté par le docteur Pron, qui prévoyait d'aller au sommet de la Meije. Et donc, il partait de l'Agrave, il allait direct sans aucun pylône au sommet de la Meije. Et en fait, ils avaient prévu d'araser le sommet de la Meije pour faire une plateforme. Voilà, et puis de monter du béton, parce que donc la Meije, elle culmine à 3982 mètres, et donc ils avaient prévu de monter du béton pour pouvoir être à 4000. Voilà, donc comme ça, on aurait fait un sommet à 4000 où on arrivait en téléphérique, tranquille. C'est assez rigolo, ces projets. On avait voulu faire une expo il y a une dizaine d'années sur les projets touristiques auxquels on a échappé. Donc il y a celui-là, mais il y a aussi, par exemple... Il y avait un projet d'aménagement du Chazelet jusqu'à ici, là où on est, quasiment jusqu'au Lautaret, hein, avec tapissé de remontées mécaniques et de pistes, hein, de faire un énorme domaine de ski là sur tout le versant sud, avec des immeubles entre la Grave et les terrasses, grand projet immobilier, etc. Ces projets-là, ils sont dans les cartons de la mairie et ils sont jamais sortis. Et aujourd'hui, on dit heureusement, mais à la limite, peut-être on aurait vécu dans les années 60, on aurait trouvé ça chouette parce qu'on se serait dit, c'était la dynamique de l'époque, on était dans l'or blanc, on était dans le plan neige, et on se serait dit, super, c'est de ça dont on a besoin.
En fait, ce que Nils se raconte de ses projets des années 60, auxquels on a échappé, c'est peut-être ce qui a fait la spécificité de l'Agrave. Et aujourd'hui, avec le projet du troisième tronçon sur l'Agrave, en fait, le danger, il n'est pas seulement de faire un tronçon supplémentaire côté la Grave. C'est qu'en fait, ce troisième tronçon, c'est le maillon qui fera qu'il y a un projet beaucoup plus ambitieux qui est de faire le Grand Oisin Ski et qui permettra, si ça arrive et si ça se réalise, c'est en fait de faire un immense domaine de ski de Vaujany à la Grave, quoi. Et c'est justement sur cette idée-là qui nous a alerté encore plus depuis qu'il y a un gestionnaire unique sur les trois domaines qui sont l'Alpe d'Huez, les Deux Alpes et la Grave. C'est à partir du moment où le gestionnaire devient le même que ce projet prend une vraie signification et où le T3 en fait est ce maillon qui fera ce grand domaine qui est dans les cartons. Si ceux des années 60 n'ont pas abouti, je pense que celui-là, ils ont véritablement envie de le faire aboutir. Et c'est pour nous un immense retour en arrière, quoi. C'est une vieille idée de faire ces immenses domaines de ski ultra reliés, etc. Alors que justement, la spécificité, l'originalité, la différence de la Grave, c'est de n'avoir pas été inclus dans ce genre de projet.
Mais alors, quelle cohérence économique pour eux de faire un grand domaine de ski au moment où il y a de moins en moins de neige et on dit au contraire aux grandes stations, essayez de penser un peu à autre chose.
C'est une question qu'on aimerait bien leur poser.
Qu'on aimerait bien comprendre. Voilà.
Ils s'appuient sur des études qui ont été réalisées par des cabinets qui ont été employés par leurs soins pour dire que si on n'a pas ce troisième tronçon, à cause du manque de neige et à cause d'une fréquentation qui pourrait baisser en hiver, je dis bien qui pourrait baisser en hiver, parce qu'aujourd'hui on est sur une fréquentation qui va bien, cet hiver on a eu des files d'attente de 1h30 au téléphérique, et pas seulement une seule fois, je veux dire, voilà, il y a de la fréquentation, donc tout se passe bien aujourd'hui, mais on nous dit que si on ne fait pas ce troisième tronçon, demain, l'avenir est vraiment en péril pour les téléphériques de la Grave-la-Meije et donc pour le pays de la Grave et de la Meije.
Ce qui est étonnant peut-être, c'est que dans un monde actuel où il y a plein d'incertitudes, on voit bien, beaucoup de changements, où on se demande où on va, où il y a beaucoup de peur, et c'est normal, avec tout ce qu'on vit. Que ce soit le changement climatique, le Covid, voilà, le chômage, l'économie, on constate peut-être un espèce de repli vers des valeurs refuges, quoi. Et c'est étonnant de voir, en tout cas dans les Alpes, le nombre de ces grands projets qui ressurgissent d'un coup, comme si ils ressurgissaient du passé. Si on passe la montagne de ce côté-là, on va en Maurienne, et puis en ce moment il y a un énorme projet qui est en train de ressortir, qui est ressorti des cartes, qui est le projet Croix du Sud, qui est une liaison, une énorme liaison entre la station de Valoire jusqu'à la station de Valfréjus et de la Norma. Voilà, c'est un projet absolument pharaonique, et on se dit, mais voilà, pourquoi on retourne vers ces projets-là qui ont eu leur temps, alors qu'on sait très bien que l'offre de ski en France aujourd'hui elle est largement suffisante, voire surdimensionnée. Et donc du coup on n'a pas besoin de faire du ski supplémentaire. Et surtout pas du lit supplémentaire, parce qu'on n'arrive pas déjà à remplir les lits qu'on a.
Et puis, pour abonder dans ton sens, Nils, y a une deuxième question, c'est sur quelle neige ? C'est que, et je suis la première que ça ennuie profondément, je suis skieuse depuis très très jeune, j'habite ici, enfin j'ai emménagé ici grâce ou à cause du téléphérique, parce que j'adore monter là-haut, j'adore skier de la poudreuse, faire des grands itinéraires, etc. Donc je suis vraiment une skieuse, mais il y a un moment... Il ne faut pas non plus voiler la face, l'enneigement se réduit d'année en année, va continuer de se réduire, ça c'est une évidence, et qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va faire comme à l'Alpe d'Huez, où on va faire monter l'eau des rivières de la vallée par des tuyaux pour alimenter les canons à neige, pour balancer de la neige sur les pistes pour les touristes qui viennent pendant leurs vacances ? Enfin, on marche complètement sur la tête, et oui, c'est dur. Et oui, c'est un deuil pour tous les skieurs. Et tous, autant qu'on est ici autour de cette table, on est tous skieurs passionnés. Et donc, évidemment que ça nous fait chier, cette histoire de changement climatique. Mais en même temps, c'est la réalité à laquelle on est confronté. Et donc, il faut... Bah oui, on est tous un petit peu forcés de se repositionner, de réfléchir à nos pratiques et puis à ce qui... À ce qui est désirable aujourd'hui comme type de relation à cette montagne qui, oui, se est de moins en moins enneigée, le glacier qui recule, les rochers qui s'effondrent. C'est ça qu'on est en train de vivre, en été comme en hiver. Donc, c'est face à ça aussi qu'il faut se positionner.
Donc, économiquement et pour le tourisme, ça n'a pas de sens, selon vous ?
L'une des remarques et des critiques qu'on nous fait, et notamment les gestionnaires du téléphérique, c'est de dire qu'on est un collectif hors sol, parce que on comprend pas les enjeux économiques et le fait que si tout ça s'arrête et que s'ils ne peuvent pas construire ce troisième tronçon, comme le disait Aurélien tout à l'heure, et ben le pays de la Meije n'aura plus assez de retombées économiques pour pouvoir survivre.
Nous, on pense en fait que le fait justement de ne pas construire de remontée là-bas et du coup de rendre le glacier à son état naturel, c'est une plus-value en vérité, et c'est une plus-value y compris pour l'été. C'est-à-dire que le modèle économique qu'on nous propose avec le troisième tronçon, c'est de conforter l'été au cas où effectivement l'hiver, l'hiver battrait de l'aile, ce qui est complètement entendable. Sauf que, en fait, nous, ce qu'on se dit, c'est pas parce qu'on montera les gens 300 mètres de dénivelé plus haut qu'ils auront une expérience qui sera plus intéressante, voire même au contraire. Alors effectivement, la vue sera un peu différente, mais au contraire, à l'arrivée de 3000, à 3200 mètres, l'arrivée actuelle, on peut proposer une expérience qui soit vraiment satisfaisante, puisque, comme on l'a dit, ben, on arrive sur un glacier, on peut marcher dessus, on peut l'appréhender, etc. Et ça, c'est une expérience qui est vraiment intéressante. Il y a une vraie aussi plus-value pour l'alpinisme, parce qu'il y a peu d'endroits en France où on peut pratiquer de l'alpinisme facile. Voilà, c'est-à-dire chausser les crampons dès l'arrivée du téléphérique et puis se promener, même quand on n'est pas sportif, en cordée avec un guide, etc. Il y a très peu d'endroits comme ça. Et si on met un téléphérique, ben, du coup, ça devient moins intéressant aussi pour pratiquer l'alpinisme. Donc en fait, on va quelque part se couper un peu d'une clientèle qui viendrait pour ça. Prenons en Islande par exemple, c'est assez loin d'ici, mais en Islande, ils ont des beaux glaciers, les gens, ils viennent de loin, ils vont voir les glaciers. Et en fait, sur les glaciers en Islande, pour faire de la balade glacier, c'est-à-dire en gros mettre des crampons, s'encorder et puis aller se promener sur un glacier, il faut réserver des mois à l'avance. C'est une activité qui est vraiment hyper prisée. En fait, on a un endroit qui est déjà extraordinaire comme ça, c'est-à-dire qu'il suffit de pas grand-chose, il suffit de quelques réaménagements intelligents pour finalement obtenir très certainement le même effet levier que la construction d'un troisième tronçon qui en plus est très coûteuse.
Donc économiquement et pour le tourisme, ça n'a pas de sens selon vous ?
En fait, le tourisme, c'est une économie très importante pour le territoire et ça le restera. Il n'est pas question de revenir là-dessus et c'est important. Mais on voit, et on le voit peut-être encore plus cette année avec la crise du Covid, que le tourisme, il peut avoir une fragilité. Demain, ça peut s'arrêter, ça peut ralentir. Enfin voilà, il y a un côté assez fragile. Et on voit en fait dans les territoires ruraux, hein, pas que de montagne, mais il y a en fait une autre économie qui est en train d'émerger. C'est-à-dire que avec aujourd'hui le numérique, avec les nouveaux emplois, etc. En fait, il y a plein de gens qui s'installent et qui ont des idées, qui font des choses. Alors Thierry, c'est un bon exemple, hein. Il y a 25 ans, il s'est installé, il a ouvert une fabrique de tissus, il aurait pu l'ouvrir à Échirolles, ça aurait été peut-être certainement plus rentable, mais il l'a ouvert ici. Mais ce matin, je discutais encore avec une personne qui a monté un site internet pour vendre des vêtements pour les bébés. Et elle a monté son site internet ici, et donc elle a ses marchandises, elle les expédie, etc. Elle pourrait faire ça n'importe où, mais elle le fait ici parce que, ben, en même temps, elle a envie de profiter du cadre de vie, et parce que il y a des gens qui mettent le cadre de vie en premier par rapport à d'autres objectifs. Donc en fait, des gisements d'activité, il y en a plein. Probablement, plein de gens ont des tas d'idées à développer, et il suffit plutôt de les accompagner, et ce qui fait que peut-être on pourrait imaginer que dans 10 ans, aujourd'hui on dépend très certainement à 90% du tourisme, peut-être qu'à l'avenir on pourrait tomber à 70-30, ou qui sait, peut-être 50-50, et ce serait peut-être plus de sécurité aussi pour le territoire et pour son avenir.
En réalité, il y a une politique générale qui fait que aujourd'hui, dans les vallées de montagne, il n'y a qu'une économie possible, c'est le tourisme. Et si on ne développe pas ça, en réalité, il n'y a plus d'économie. Et les paysans, qui ont toujours été là, qui en fait, c'est l'origine des économies de ces vallées de montagne, on les a mis à côté. Alors, ils existent tant qu'ils peuvent exister. Et puis, un jour, ils existeront peut-être plus, parce que justement, par un développement excessif du tourisme, il n'y a plus de place pour eux. Alors ici, ce n'est pas le cas, il y a encore plein de fermes, il y a plein d'agriculteurs, parce que, comme on disait tout à l'heure, la vallée a été préservée, elle était loin de tout, elle n'a pas eu ce développement économique, touristique qu'ont connu plein d'autres vallées, mais il faut juste regarder ce qui se passe dans les Alpes, partout, les agriculteurs, au bout d'un moment, ils se sont effacés, parce qu'on a aspiré tous les terrains pour faire de la construction, de la résidence secondaire. Il n'y a plus d'espace, donc ils ont disparu parce qu'ils n'avaient plus d'espace pour eux. Et c'est en cela que moi je pense que ces visions tout tourisme qui sont toujours vendues comme l'unique avenir des vallées de montagne. C'est une erreur fondamentale parce que, en fait, ça détruit les économies d'origine, dont l'agriculture. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut se battre pour, oui, certes, une part de tourisme, mais préserver une vraie vie économique qui fonctionne non pas 2 mois l'été, 4 mois l'hiver, mais 12 mois sur 12, parce qu'il y a des gens qui vivent. Et les agriculteurs, bah, c'est effectivement les premiers, mais après, ça peut être aussi des artisans, des micro-entreprises, etc.
Et justement, aujourd'hui, on en a encore une fois l'exemple, c'est-à-dire que ce projet de troisième tronçon, il y a en tout 4 millions d'euros de subventions qui viennent de l'argent public. Et en fait, ces 4 millions d'euros, si on proposait de créer des fermes, si on proposait de créer de la permaculture, si on proposait avec des vraies aides pour des gens qui veulent s'installer, on pourrait créer combien d'emplois ? 20, 30, peut-être 40 avec 4 millions d'euros. Mais aujourd'hui, si on utilise cet argent dans un autre sens, on peut peut-être créer plus d'emplois et peut-être créer justement, encore une fois, plus de vie sociale, plus d'attrait pour le tourisme, parce que si on a demain une coopérative agricole, les touristes ils s'arrêteront, ils viendront acheter nos produits et ce sera sympa.
Est-ce que vous pouvez développer sur les conséquences environnementales du troisième tronçon ?
En fait, ça c'est un des arguments un petit peu massus des gestionnaires du téléphérique, c'est de dire que en enlevant ce téléski qui est obsolète à l'heure actuelle sur le glacier et en remplaçant par ce troisième tronçon où en fait il y aura juste un grand pylône sur un rognon rocheux au milieu du glacier, puis une gare d'arrivée dite écologique, on aura un impact absolument inférieur à ce qui se passe aujourd'hui. Mais enfin, on va pas se le cacher, ça s'appelle du greenwashing et donc voilà, l'aspect écologique il est vraiment mis en avant, mais c'est comme si maintenant c'était écologique de construire une infrastructure sur un glacier. Et non seulement c'est écologique, mais c'est aussi démocratique, parce que alors l'un des autres arguments qui est vraiment mis en avant, c'est la démocratisation de la montagne, c'est qu'on va pouvoir faire monter le plus de monde possible de 2 ans à 90 ans, les handicapés aussi, et tout le monde va pouvoir avoir cette expérience de 3006. L'idée, c'est vraiment de faire une deuxième aiguille du Midi dans les Alpes du Sud. Faire un troisième tronçon de téléphérique sur un glacier à l'heure actuelle, avec ce qui se passe au niveau environnemental, ce n'est pas écologique et ce n'est pas démocratique non plus, parce que la première chose que cette entreprise a fait lorsqu'ils ont repris la grave, c'est d'augmenter le prix du forfait de 20%. Donc on voit bien, au niveau de la démocratisation entre guillemets, c'est pas vraiment ça. Mettre un troisième tronçon de téléphérique sur ce glacier, évidemment que ça ne changera rien au sens où le glacier, de toute façon, quoi qu'on fasse, et même si tout devait s'arrêter et qu'on repartait dans un confinement mondial, va disparaître. Ça, c'est ce que nous disent les glaciologues. Et donc, oui, un pylône en plus, un pylône en moins, ça ne changera pas grand-chose. Mais en même temps, c'est par des petits combats dans des petites localités que le monde change, au sens... c'est une question politique, en fait. Je pense que c'est plus une question politique qu'environnementale. Étant conscient des métamorphoses environnementales drastiques qui nous attendent, qu'est-ce qu'on fait collectivement face et avec ces entités naturelles ?
La Grave, autrement. Une émission de Radio Zinzine. La Grave, autrement. Autrement, c'est ce que propose le collectif d'opposants à ce grand projet, qui conteste son utilité économique, sa pertinence territoriale, ainsi que le déni de démocratie. Autrement, c'est le regard que porte ce collectif sur leur village, hors des circuits classiques du tourisme de masse, du temps de l'or blanc. Autrement, pour imaginer la métamorphose de ce lieu, de manière incarnée, avec lucidité et courage, face à la réalité des fortes modifications climatiques en cours. Et pour ça, il faut du temps. Le temps de la réflexion, de l'observation et des échanges. C'est pourquoi le collectif La Grave Autrement demande un moratoire sur le projet Grand Oisan dans l'une de ses ramifications et la construction d'un troisième tronçon de téléphérique sur le glacier de la Girouse.
Et donc en fait, aujourd'hui, le collectif a proposé un moratoire. Donc, a fait une demande de moratoire, plus exactement, à toutes les instances politiques qui existent, que ce soit au niveau du ministère, de la présidence, des préfets, de tout le monde. On a informé tout le monde que nous, voilà, on voudrait déjà au moins pouvoir prendre le temps de réfléchir. Et alors, prendre le temps de réfléchir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant 2-3 ans, on fait un essai, on arrête l'exploitation du glacier pendant 3 ans et on voit ce qui se passe. Et on voit ce qui se passe, autant au niveau économique, autant au niveau de la clientèle, autant au niveau de tout le monde, de ressenti de tout le monde, les guides, qu'est-ce qu'ils en pensent pour travailler, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien. Au niveau économique, il faut qu'on ait un regard aussi sur les chiffres de la société qui exploite aujourd'hui ces remontées. C'est pour ça qu'on demande aussi la création d'une commission consultative de services publics, qui pourrait être créé avec tous les acteurs de la vallée, que ce soit les agriculteurs, encore une fois, le SF, les guides, n'importe qui, des simples citoyens qui ont envie de s'informer, envie de comprendre, et regarder les chiffres et pouvoir faire des estimations. Oui, aujourd'hui, c'est viable sans rien faire. Ou non, c'est pas viable et il faut trouver une solution. Mais aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire un essai, de pouvoir essayer. On peut très bien essayer pendant 3 ans et on voit que c'est la catastrophe, mais on réfléchit à des solutions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande ce temps de réflexion. Voilà, on arrête, on essaye.
Ce qui est peut-être dommage aujourd'hui, c'est que nous, on n'a pas une opposition pure et dure, comme ça, tranchée. On propose juste de prendre le temps de réfléchir. Et d'imaginer peut-être un autre monde ou une autre façon de penser, une autre façon de s'organiser, parce que justement on est dans une vallée qui n'a pas encore été impactée et donc où le retour en arrière deviendrait plus possible, ce qui est le cas des stations qui nous entourent. Aujourd'hui on a encore cette chance d'être sur la ligne de départ, j'ai envie de dire. Ce qui est beaucoup plus triste, c'est que en fait les instances dirigeantes aujourd'hui sont n'ont pas l'envie de discuter. Pour eux, l'économie, c'est l'économie. Si on fait pas quelque chose pour l'économie, tout va s'effondrer. Et que voilà, c'est le leitmotiv absolu, c'est que il faut relancer l'économie, il faut faire plus, il faut augmenter les capacités, etc. Et ça, c'est très certainement une erreur fondamentale. Mais il y a 10 jours, la SATG a fait une présentation dite publique. Alors, il n'y avait pas de débat autorisé, mais voilà, eux, ils donnaient l'info et on n'avait pas le droit de réagir, ce qui est déjà une drôle de façon de présenter un projet. Mais Jean-Yves Noiret, qui est le président de la SATA, il a dit, en entrée, ça a été sa première phrase, il a dit, il faut qu'on réveille les territoires de l'Oisan et il faut qu'on fasse peur aux Savoyards. Je trouvais ça affligeant comme début de discours, parce que ça voulait dire, voilà, il faut qu'on suréquipe encore plus que ce qu'ils ont fait en Tarentaise, qui est quand même aujourd'hui la vallée la plus... oui, la plus détruite par le tourisme que nulle part ailleurs, avec toutes les conséquences, notamment de bouchons énormes et pas possibles, voilà, chaque début et fin de vacances. Enfin, une vallée qui est complètement asphyxiée, paralysée justement par ces arrivées en masse. Et le premier discours de Jean-Yves Noiret, c'est de dire « faut qu'on fasse pire qu'eux, quoi ». Et à la fin de cette pseudo-présentation, le maire de La Grave dit « Soyez tous avec nous pour défendre ce beau projet ». Donc, c'est que vraiment, il y a un décalage. Il y a un décalage. Pour eux, il faut répéter ces vieux schémas économiques. Et ils ne veulent même pas prendre le temps, en réalité, de discuter. De discuter, de réfléchir, de voir s'il n'y a pas un plan B qui existe. Ce que nous, on propose, quoi. Et notre force, c'est de proposer dans le débat et la réflexion, pas de s'opposer. On n'est pas un collectif qui dit non à. On est juste dans la recherche d'autres solutions pour une autre alternative et un autre développement.
Le collectif se positionne pour tout enlever sur le glacier. Donc il y a ce téléski obsolète et l'idée c'est de l'enlever et de rendre le glacier à son état naturel. Mais pourquoi ? Parce que ce glacier il est en train de fondre, il est en train de disparaître. Bernard Francou nous disait il y a quelques mois lors d'une réunion qu'il lui donnait 40 à 50 ans. Donc c'est quand même très peu pour se dire qu'on va construire un nouveau tronçon de téléphérique sur ce glacier. Et par ailleurs, c'est aussi une question de positionnement presque éthique et politique. C'est de dire comment on se positionne face à une entité naturelle qui est en train de disparaître et de s'effondrer. Et est-ce qu'on doit toujours être dans cette logique du plus haut, plus fort, plus vite ? La ressource remonte, donc on va remonter avec la ressource et on va faire en sorte d'aller la chercher là où elle est. Alors que peut-être il faudrait plutôt être dans des pratiques de soins. Oui, de regarder ce glacier un petit peu comme le miroir de nous-mêmes. Et ce qui est en train de lui arriver, c'est en train d'arriver aux écosystèmes et c'est en train de nous arriver à nous aussi. Et cette question de l'effondrement, si on ne veut pas plonger... dans l'effondrisme et avoir à faire le deuil du monde, et ben, il y a un moment, il faut décider de se positionner politiquement face à ces entités qui disparaissent.
Déjà, souvent, en fait, si on remonte dans l'histoire, les grands projets, en fait, ils sont souvent montés en fait par la force du poignet. C'est-à-dire qu'il y avait des types qui ont un peu lutté bec et ongles pour monter les projets. Le téléphérique, il s'est monté comme ça. Il y avait un maire à l'époque qui s'appelait Ernest Juge, qui s'est battu parfois un peu envers et contre tout pour arracher un peu le téléphérique. Et d'ailleurs, il y a une histoire dramatique puisque la gare du téléphérique, la première année de la construction, elle a été plastiquée. Il y a eu une bombe. Il y a des gens qui ont placé une bombe dans la gare du téléphérique. Donc, à l'époque, il y avait des opposants, ils faisaient pareil. Et nous, évidemment, on n'est absolument pas dans cette logique-là. Au contraire, ça serait de dire, tous ces projets qui se sont montés à la force du poignet, un peu envers et contre tout, aujourd'hui, on souhaiterait qu'il y ait une démocratie où on associe vraiment les gens aux grands projets qui concernent leur avenir. Et c'est vrai que sur ce projet-là, finalement... On a assez peu associé les gens à la réflexion. Il y a eu quelques réunions publiques, mais c'était plutôt des réunions d'information. Mais tout ce projet-là, qui est très impactant pour le territoire, il s'est décidé entre quelques personnes autour d'une table, sans que la population ait été associée et eu les clés pour associer. Donc le collectif, il essaye de transcender ça. Il essaye de transcender aussi le fait que il y a deux communes, il y a La Grave et Villard d'Arène. Donc, par exemple, si on vote à Villard d'Arène, les projets qui ont prise à La Grave, à la limite, on a peu de prise dessus, et les élus de Villard d'Arène ont peu de prise dessus, parce que ça se passe à La Grave, alors qu'en fait, ils concernent tout le territoire. Il y a un projet de fusion des communes, mais ça prendra certainement du temps encore. Et le collectif, il essaye de transcender ça.
collectif, il est vraiment ouvert à tous et à toutes. Il n'y a pas que les habitants de la Grave qui doivent se mobiliser. Je pense que cette montagne, elle appartient à tous ceux qui l'aiment, à tous ceux qui y vont, à tous ceux qui la pratiquent. Et je pense que ça peut vraiment toucher beaucoup plus large. On a beaucoup de témoignages. Et on a aussi des personnes qui sont déjà inscrites au collectif à l'international. Des gens qui viennent en vacances à la Grave et qui sont sensibilisés par cette nouvelle initiative. Et voilà, c'était juste un appel un peu plus large, que je pense qu'on peut tous être acteurs et actrices de ce qui est en train de se passer. On peut tous faire une petite différence. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Tant qu'il n'y a pas les premières pelleteuses, le projet, il est pas fait et on peut encore agir. Des fois, le commentaire qui revient, c'est « Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant que le projet soit voté ? Et pourquoi on s'y est pas pris plus tôt ?» Non, ça ne s'est pas fait plus tôt parce que ça s'est fait très vite, ce projet, et il n'y a pas eu ce temps de débat, d'où l'idée de demander un moratoire.
Sur cette question, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous reproche, enfin c'est quelque chose qu'on entend vraiment des gens qui sont pas très pro-collectifs, qui disent souvent « Vous vous réveillez trop tard ». Et oui, peut-être, on se réveille trop tard, mais en fait, d'un point de vue général, les humains se réveillent toujours trop tard. Et en fait, le propre de en fait, pas seulement de l'humanité, mais des êtres vivants, c'est leur fragilité, leur faille partagée. Et quelque part, peu importe, en fait, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une conjonction de choses qui a fait qu'il y a eu un réveil et il est maintenant. Et c'est très bien qu'il soit maintenant. Et on fait, quelque part, oui... On fait comme on peut, mais c'est ça qui est beau. Et encore une fois, l'idée, c'est de, face à cette incertitude écologique, économique, politique, croissante, c'est justement de se remettre dans cette fragilité de nos existences à tous. Et non, la réponse, c'est pas un nouveau projet dantesque, c'est plutôt de revenir à hauteur d'homme, à hauteur de mouton, à hauteur d'arbre, et de se dire ok, bah comment on va faire, comment on va vivre ici collectivement, et aussi qu'est-ce qu'on va proposer comme territoire à nos enfants.
Bah, peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que finalement on nous accuse d'arriver trop tard, mais moi j'ai envie de dire que finalement c'est la politique qu'ils sont en train de mettre en œuvre qui arrive trop tard. Parce que justement, c'est une vieille idée de faire du développement à outrance, de remonter mécanique, de relier des domaines, de faire le plus haut, le plus grand, le plus si. C'est plus à la mode, c'est plus la façon qu'on a aujourd'hui d'envisager l'avenir. Et la vraie force de la Grave, c'est de n'avoir pas fait ça avant. Donc moi, j'ai souvent dit que la Grave, elle a 30 ans d'avance au lieu d'avoir 30 ans de retard. Et aujourd'hui, avec effectivement le réchauffement climatique, les choses qui changent, et puis notre devoir de changer face à la nature, on a encore tout ce potentiel que non plus les autres. Donc c'est eux qui arrivent avec une vieille idée complètement dépassée, avec finalement une philosophie derrière qui est quand même pas très recommandable, les plus grands, les plus forts, le plus ci, le plus là, je vais faire du tort à celui d'en face, quoi. Enfin, c'est quand même pas très honorable. Et ils se rendent pas compte qu'en réalité, et nous, on a cette différence qui fait qu'on va pouvoir trouver un développement différent et qui va encore une fois faire de la Grave quelque chose de différent.
Et aujourd'hui, investir autant d'argent, alors qu'effectivement, on est en pleine crise économique, peut-être qu'il y a des solutions qui coûteraient moins cher et qui pourraient permettre aussi de pérenniser cet endroit. Peut-être justement en offrant quelque chose de différent, plutôt que de rejoindre juste toutes les plus grandes stations de ski ou d'été. Hein.
Ce que je trouve intéressant, c'est que maintenant, il me semble que dans les nouvelle génération militante qui occupe justement des territoires, il y a moins cette idée d'aller voir ailleurs, à l'autre bout du monde, forcément, ce qui s'y passe. Et que la question maintenant, c'est peut-être de récupérer les combats sur les lieux où on habite.
Oui, je suis absolument d'accord. Et il y a quelque chose, enfin moi, en tant qu'anthropologue qui ai beaucoup travaillé dans le Grand Nord, qu'on observe là ces dernières années, c'est vraiment un déplacement des avant-postes. Si jusqu'à il y a 10 ans, on allait dans des communautés indigènes au Canada, en Alaska, en Sibérie, etc., on voyait vraiment des gens qui étaient de plein fouet touchés par les métamorphoses environnementales et qui, de fait, ne pouvaient même plus subvenir à leurs besoins. Et touchés par l'extractivisme, touchés par les politiques aussi de protection de l'environnement qui les excluaient, de fait, des parcs nationaux qui étaient construits. Donc c'était vraiment tout un tout comme ça. Et ce qui est en train de se passer, et je pense qu'on l'a tous ressenti pendant le Covid, c'est que ces avant-postes en fait sont en train de se déplacer, et que nous aussi on se trouve face à cette incertitude et qu'elle commence à nous toucher au cœur de nos existences. Et ça, c'est vraiment important. Et je pense que plutôt que d'être terrorisé et d'être un peu comme la méduse stupéfait face à l'abysse qui s'ouvre sous nos pieds, eh ben il faut plutôt prendre cette crise à bras le corps. L'embrasser pour, comme disait tout à l'heure Aurélien, se réinventer. C'est presque une chance ici qu'on commence à être touché par cette métamorphose. Et oui, le monde est en train de changer de visage. Et donc nous aussi, il va falloir qu'on change de visage avec lui. Je pense qu'on a vraiment envie d'abord de passer par ce qu'exprimait Niels, par une forme plus douce d'action et juste d'ouvrir la possibilité d'un débat. Le problème, c'est que jusqu'à présent, on nous dit qu'il n'y a pas de débat possible. Enfin, texto, le maire a dit la semaine dernière en conseil municipal, ce n'est pas l'heure du débat. Et voilà, donc on essaie, jusqu'au bout, on essaiera qu'il y ait un débat, mais si ce débat n'est pas possible, il y a un moment donné, il se passera autre chose. Parce que je pense que c'est quand même vraiment important qu'on dise non. Même si, en fait, à la base, on dit qu'on n'est pas un collectif qui dit juste non, mais qui crée un débat. Mais tout à certain point, quoi. Jusqu'à un certain point, jusqu'à une certaine limite. Et il y a un moment, s'il faut en passer par là, eh bien on se mettra en lien avec tous les réseaux militants qu'on connaît pour pouvoir créer une action qui ramène beaucoup de monde, et de monde de l'extérieur aussi, des gens qui se positionnent contre les aménagements territoriaux qui n'ont plus aucun sens à l'heure actuelle, et voilà, de faire quelque chose, de prendre position de manière de prendre position de manière un petit peu plus affirmée et radicale. Pour l'instant, on est encore dans le temps du débat. Açmadan solan bir gülsün, her zaman gamlıyım, her zaman üzgün. Açmadan solan bir gülsün, her zaman gamlıyım, her zaman üzgün. Beklerim yolunu aylar boyunca. Yeter ki gel bana.
senede bir gün, senede bir
La Grave Autrement, une émission sur la lutte contre un grand projet inutile dans les Hautes-Alpes. Une émission de Radio Zinzine.